Lara Gonzalez.
BBM Sport.
Ça, c'est quoi, ça?
Exercice.
Ça, c'est un classique, ça.
Classique, c'est Poltergeist.
C'est toujours bon à réentendre, ça. Ouais.
On va s'en taper en fin de semaine, c'est sûr. Allons rejoindre notre bon ami Arpin Basu qui a changé de case horaire aujourd'hui. Arpin, comment vas-tu?
Oui, ça va bien. Merci les gars. Ça a donné que Candy s'entraînait à notre heure habituelle. Alors merci de m'accommoder un peu aujourd'hui.
Comment seront nos déguisements, Big?
Ben, je vous vois pas.
C'est une bonne chose pour toi.
Ah, oh, pour vrai, il nous voit pas?
C'est une bonne chose
pour
toi.
Non, il nous voit pas.
On est déguisés, là, c'est pour ça. Là, tu regarderas plus tard dans les réseaux sociaux.
Ouais, ouais, je vais checker ça. Ouais,
c'est nous,
ça.
On te voit. Hey, Arpan, pour commencer...
C'est inévitable, je pense.
Ouais. pour commencer, Arpan, après le début de saison du Canadien 8-3, pour toi, qu'est-ce qui t'impressionne le plus? Si t'as un point qui t'impressionne le plus, parce que je sais qu'il y en a plein, là, depuis le début de saison du Canadien, c'est quoi?
Pour moi, c'est le fait qu'ils sont 8-3, puis ils jouent pas leur meilleur hockey. C'est, honnêtement, c'est ça qui m'impressionne. Là, par le passé... Ça prenait des matchs quasiment parfaits pour le Canadien d'aller chercher des points. Je trouve que cette saison, il y a peut-être 2-3 matchs où ils ont vraiment joué un match complet. Malgré ça, ils trouvent une façon de remporter des matchs. Puis je pense que c'est surtout à cause du fait que leur jeu défensif est beaucoup, beaucoup amélioré comparé à la même date l'année passée. Ça leur permet d'aller chercher des points, même si leur jeu n'est pas... est pas parfaite, puis est loin d'être parfait en ce moment, mais il se trouve avec le meilleur fiche de leur division et un des meilleurs de la Ligue. Alors, c'est très bon signe parce qu'il y a beaucoup d'espace pour amélioration pour cette équipe-là.
Ouais, on donne très peu de tirs et ça, c'est une grosse différence comparativement à l'an dernier. Arpin, parlons un peu des gardiens de but chez le Canadien de Montréal. On se croirait à une époque différente. On n'a jamais autant parlé des gardiens de but dans les dernières années. Dobesch qui est 6-0. C'est assez phénoménal comme début de saison, honnêtement. T'sais, on entend même son nom maintenant pour le Calder.
Oui, effectivement. Ben, écoute, le Canadien a 3 recrues qui pourraient aller chercher des votes pour le Calder en ce moment, si on inclut Kapanen, évidemment Demidov. Mais Dobesch, c'est un gars qui... tout le monde crie pour Jacob Fowler. Puis je pense que Dobesch, pendant longtemps, était comme un homme oublié dans le depth chart des gardiens du Canadien. Puis honnêtement, le Canadien a même d'autres gardiens qui ont l'air quand même assez prometteurs. Mais ce gars-là, il est grand, il est très athlétique, et c'est un gars qui compétitionne. Et sa personnalité est très gardien. C'est un gars qui est quand même assez unique. La façon qu'il voit les choses, tu sais, l'autre soir à Seattle, c'était assez comique après le match. Tu sais, il axait sur le fait qu'il a pas aimé ses 10 dernières minutes. Évidemment, Seattle a marqué 3 buts dans les 11 quelques dernières minutes de temps réglementaire avant que Cole Caulfield le termine en overtime. Mais tu sais, le gars, il était comme, il essaie de régler ça de fait qu'il était complètement 100% focusé sur le fait que les 11 dernières minutes n'ont pas bien allé pour lui. Puis il a dit que le jour même, il avait fait une recherche sur Google pour chercher le mot perfectionniste. Puis il a trouvé que les 4 définitions que ça donnait, il n'y avait aucun des 4 qui était quelque chose de positif. C'est tout négatif. Alors il était comme moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, OK, faut essayer d'être moins perfectionniste. Mais il a dit, tu sais, ça va prendre 30 minutes, puis je vais être capable d'oublier ça. Mais c'est un gars qui cherche la perfection, honnêtement. Ses standards pour lui-même sont très élevés. Et c'est une belle histoire qu'il est en train d'écrire cette saison. Puis honnêtement, le Canadien, ça c'est une autre chose, qu'ils sont 8-3-0 avec un Sam Montembeau qui est pas à son meilleur. Puis c'est Dobesch qui a permis de faire ça. Puis l'année passée, c'était la même chose. Quand le Canadien allait mal, c'est Dobesch qui est arrivé puis a contribué au fait que le Canadien s'est retrouvé. Alors, je trouve que c'est un facteur très, très, très important pour cette équipe, puis ça va continuer à l'être pendant toute la saison, probablement.
Arpin, pour le match de samedi, on a confirmé avec raison que Montembeau allait être dans les buts. À quel point il y a de la pression pour ce match-là à la maison devant les siens contre Ottawa?
Sam, c'est un gars qui ressent pas vraiment ça. Il est bien mindé pour ce job-là à Montréal. Je pense pas que lui va sentir cette pression-là, mais c'est clair qu'il y en a. Et c'est clair, ça doit être clair pour lui que si son niveau de jeu n'est pas assez élevé, évidemment, son numéro 2 joue très bien maintenant. Alors, il pourrait perdre son filet très facilement. L'autre chose, c'est que s'il ne joue pas bien samedi, ça veut dire, ça ne veut pas nécessairement dire ça, mais ça pourrait mener à du monde à croire qu'il y a quelque chose de plus fondamental qui ne va pas bien dans son jeu parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de temps pour travailler sur son jeu depuis son dernier départ. Alors, tu sais, s'il ne joue pas bien samedi, c'est pas à cause du fait qu'il n'y a pas eu, tu sais, il y a eu toute l'opportunité au monde de se remettre en place avec Éric Raymond. Puis il a pris cette opportunité-là, il a passé beaucoup de temps sur la glace mardi matin à Seattle. Tu sais, quand j'ai quitté l'aréna après le morning skate, c'était après que Lane Hudson a quitté la glace. Puis Lane Hudson, comme tout le monde le sait, passe beaucoup de temps sur la glace. Alors, on a eu le temps de parler à Lane Hudson. Puis en quittant, il était encore sur la glace avec Éric Raymond, avec Joshua Roy, avec Marc Delgazzo, en train de travailler. Alors, c'est pas comme si ce gars-là, il travaille pas. Mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner contre Ottawa parce que, tu sais, ses départs cette saison, pour la plupart, il avait pas l'air d'être lui-même. Il le sait. Il est au courant. Mais là, il faut que tout ce travail-là se transforme ou se transmette sur la glace. Puis, je pense qu'il sait aussi que si ça arrive pas, sa position, pas à long terme, tu sais, je pense que Martin a été très clair que Sam Montembeau, c'est une grande partie de l'équipe, puis c'est une grande partie de leur succès l'année passée. Il va l'être encore cette saison. Mais si ça va pas bien, ça va vouloir dire que il y a un problème qui est peut-être un peu plus gros que tout le monde pense en ce moment.
Ouais, je suis curieux de voir. J'imagine que les gars également le comprennent et vont vouloir se lever pour Sam Montembeau. On en a parlé cette semaine. Je suis curieux de t'entendre là-dessus, Harpin. On parle de Dobèche, on parle de Montembeau. On comprend et on voit que le salaire n'est pas très élevé pour le tandem du gardien de but de Montréal, des gardiens de but du Canadien de Montréal. Est-ce que tu dirais que le CH un des meilleurs tandems point de vue rentabilité dans la Ligue nationale de hockey, quand on pense au salaire versus les performances?
Oui. C'est difficile de... Ils sont quoi les deux ensemble? C'est moins que 5 millions, non?
C'est moins que 4,2. C'est 4,1 quelque chose.
C'est 4,1 quelque chose. Alors, dans le fond, c'est... À ce prix-là, c'est difficile d'avoir juste un gardien numéro 1. Puis là, tu as les deux gardiens qui rentrent dans cette enveloppe-là. Oui, tu ne peux pas demander beaucoup mieux. Écoute, les performances de Dobèche à date, là, c'est difficile à le surestimer ou à dire que il faut comprendre à quel point ce gars-là performe comme un des meilleurs gardiens de la Ligue. Là, est-ce que ça va durer? Probablement pas, mais là, on a comme un échantillon qui date de la saison passée. Son début de carrière dans la Ligue nationale était très similaire à ce qu'on a vu à date. Alors, c'est sûr que quand un gardien sur son contrat de recrue, quand il est tellement jeune, comme Dobèche l'est, puis Sam, il est sur un contrat qui est très, très favorable. Il aurait pu demander beaucoup plus qu'il y a eu du Canadien, qui rentre dans un peu la méthode du Canadien pour signer ces contrats-là. C'est un autre département où le Canadien trouve beaucoup d'efficacité dans le rapport argent-qualité. Comme tous les jeunes attaquants qu'ils ont, comme tu sais, Lane Hudson vient de signer. Tu sais, deux semaines plus tard, Logan Cooley signe pour 10 millions par année. C'est pas la même position, je comprends, mais c'est le même repêchage. Probablement le même genre d'impact sur leur équipe. Puis Cooley, il va chercher plus qu'un million de plus par année. Ça démontre à quel point les Canadiens continuent à trouver de l'efficacité un peu partout dans leur alignement au niveau de l'argent.
Est-ce que tu étais en entraînement? Donc, qu'est-ce qui s'est dit? Si tu es capable de nous résumer peut-être des choses intéressantes qui se sont dites au terme de cet entraînement? Est-ce qu'il y avait des revenants également? On sait que c'était une journée de traitement pour Doc et Gallagher hier.
Bien, Doc et Gallagher étaient là. En fait, ils ont lancé complet sur la glace. Alors, ça, c'est une bonne nouvelle. On n'a pas parlé à Martin aujourd'hui. En fait, Stéphane Robida vient de parler aux médias pendant que je vous parlais ici. Okay. Là. Alors, je ne sais pas ce qu'il a dit, mais... J'ai pas parlé à beaucoup de joueurs. Aujourd'hui, j'avais quelque chose à faire avec Alex Newhook, alors j'ai pas mal parlé à lui d'un sujet à part, là. Mais je pense que, tu sais, étant après l'entraînement d'hier, ça se voyait dans les commentaires des joueurs, et même Martin après l'entraînement, tu sais, ils sont reconnaissants un peu de ce que je disais tantôt, du fait qu'ils sont mis 3-0, oui, mais ils ont du travail à faire sur certains éléments. Tu sais, dernièrement, le fait que leur troisième période a un peu moins bien été à Edmonton, à Vancouver et surtout à Seattle. Si tu regardes leur fiche en troisième période, ils ont donné 18 buts en 11 troisième période. Ils ont marqué juste 14. Je pense qu'il y a juste le Wild de Minnesota qui a donné plus de buts en troisième période que les Canadiens. Alors, c'est une bonne chose qu'ils sont capables d'aller marquer des buts en prolongation, et c'est une bonne chose qu'ils ont été capables souvent d'avoir une avance en troisième période. Alors, mais c'est quelque chose qu'il faut régler dans leur cas. Alors, c'est comme je mentionnais tantôt, je pense que tout le monde est content de leur fiche. Mais en général, tout le monde est aussi conscient du fait qu'il y a beaucoup de choses à améliorer. Et c'est ça, quand tu vois, tu sais, moi, je vois le match de Kirby Doc à Seattle comme étant quelque chose de super positif. Si ce gars-là peut continuer à trouver un niveau de confort comme il a démontré à Seattle, puis même à Vancouver avant ça, ça va vraiment changer la donne pour le Canadien. Alors ça, c'est quelque chose que je vais continuer à regarder samedi soir s'il peut continuer sur ce lancer-là.
Parlant de samedi soir, est-ce que tu t'attends à des représailles envers Cousins de la part du CH?
Ah oui, c'est certain. Moi, je serais très surpris s'il n'y a rien qui se passe. Oui,
exact.
Ouais.
Surtout avec c'est l'absence sûr. De Tkachuk, non, les gars?
Ben non, mais Tkachuk ou pas, Gonzo,
je comprends, mais ça...
Gonzo, peu importe.
Oui, mais ça ouvre la porte encore plus.
Ouais, ça serait là pareil.
Je pense pas que c'est un facteur. Honnêtement, après ce que Cousins a fait, puis le fait que les Sénateurs l'ont pas mis dans l'alignement, dans le prochain match, ce que j'aurais fait, si j'étais les Sénateurs, j'aurais dit, OK, écoute, Nick, ça va arriver à un moment donné. C'est préférable que ça arrive pendant la pré-saison pour qu'on règle ça. Là, ça va être quelque chose qui doit se faire. Puis ça doit se faire. Cousins le sait, les Sénateurs le sait, le Canadien le sait, tout le monde dans cette vestiaire-là le sait. Il faut faire quelque chose. Et ça aurait été cool si les Sénateurs auraient pu faire en sorte que ça soit réglé pendant un match pré-saison au lieu d'un match qui est quand même très important pour les Sénateurs d'Ottawa. Et là, t'as ce petit sideshow-là qu'il faut régler. Mais il n'y a aucun doute que quelqu'un va aller voir Nick Cousins, puis je suis sûr que Cousins va jeter les gants aussitôt qu'il est invité à le faire, parce que c'est qui doit le faire.
C'est le cas.
C'est juste de voir qui va faire ça.
Ouais.
Moi, je pense que c'est Anderson.
Moi aussi, je pense que c'est Anderson. Ça
serait dans la même ligue, tu sais.
Ouais, exactement.
Puis ça serait comme un match-up qui va probablement se produire. Si Arbor est sur la glace contre lui, j'ai aucun doute qu'il va aller le voir, là, mais... peut-être que Cousins aurait quelques doutes si jamais
ben
c'est
ouais.
Non, mais tu sais, avec... ouais, mais tu sais qu'avec le code Harper
ça va pas, ça Harper va pas, être... pas ouais.
C'est pas Harper qui va faire ça. Les gars vont se parler dans le vestiaire avant, un peu comme quand Gallagher il s'était battu avec Pajot.
Pajot, ouais.
Tu sais, c'est comme les gars essayent à peu près.
Anderson l'a déjà fait avec Anderson l'a déjà fait avec quelqu'un. Puis tu te rappelles, c'était Edmondson dans le temps qui est allé voir Tyler Myers, je pense.
Oui.
Et tu sais, c'est quelque chose qu'Anderson a déjà fait, puis j'ai aucun doute s'il a l'opportunité, il va le faire. Là. Mais ça va arriver. Et ça va arriver très tôt dans le match, je suis convaincu.
Ouais, moi aussi. Ouais. Hey, un nom qui a été très populaire à Montréal cette semaine, et on pourrait dire à Vancouver aussi, où tu sais, dans les places où les gens cherchent un joueur de centre, c'est Nazem Kadri qui a encore marqué hier pour les Flames. Selon ton collègue Pierre Lebrun, il disait que, bon, chez le Canadien de Montréal, à l'interne, on avait fait une liste de noms qui pouvaient potentiellement être disponibles pour la date limite des transactions, et que le nom de Kadri était sur cette liste. S'il devient dispo éventuellement, après ses 1000 matchs ou un peu plus tard dans la saison, est-ce que tu vois le Canadien faire une offre aux Flames?
Oui. Moi, comme Pierre a mentionné, puis c'est clair, c'est pas un choc que le Canadien a une liste de joueurs de centre autour de la Ligue. Ouais. Où il pourrait faire une offre. Je suis certain que chacun de ces centres-là, s'ils se rendent disponibles, le Canadien va faire une offre. Tu sais, puis le Canadien est quand même, ils sont pas aussi bien nantis en termes de choix de repêchage qu'ils l'étaient pendant les 3-4 dernières années. Mais en termes d'espoir, à Laval, tu sais, il y en a des gars qui devraient intéresser beaucoup d'équipes. Alors, ils sont bien nantis dans ce domaine-là ou dans ce chapitre-là. Kadri, tu sais, il reste 3 ans de contrat, il a 35 ans, c'est sûr que c'est un risque, mais il joue du très bon hockey encore. Puis je pense que en termes de c'est quand même, c'est l'équipe la plus jeune de la ligue. Alors, ajouter de l'expérience, ajouter un peu d'âge, je pense pas que ça va faire peur aux Canadiens. Particulièrement un gars qui, quand même, joue très bien en ce moment. Puis, tu sais, on sait pas si à la fin de son contrat, il va jouer aussi bien qu'il le fait maintenant, mais 3 ans, c'est pas une éternité. Puis, ajouter de l'expérience pour une équipe qui espère faire du chemin en séries éliminatoires, peut-être pas cette année, mais l'année prochaine, c'est sûr. L'expérience de Kadri ne nuirait pas à ça, c'est certain.
Quand tu regardes l'équipe cette année du Canadien de Montréal, puis on regarde tous les trophées qui pourraient être disponibles, tu sais, que ce soit le Calder, Jack Adams, Selke, Maurice Richard, peut-être le Norris, selon toi, quel trophée un des joueurs du Canadien a plus de chances de gagner cette année?
J'imagine que le Calder, je ne l'inclus pas. Là. C'est la réponse évidente.
C'est l'évidence.
Je pense que Nick Suzuki, s'il continue comme ça, il va recevoir des votes pour le Selke. Puis, tu sais, le trophée Selke, c'est quelque chose que ça prend du momentum pour commencer à le gagner. À chaque année, tu sais, t'as plus, à part le Lady Byng, là, ce qui est un trophée que honnêtement, les médias devraient pas voter là-dessus. Je pense que les arbitres devraient voter sur le Lady Byng. Mais t'as beaucoup, beaucoup de candidats, ce qui dit que les standards pour le Lady Byng changent d'un électeur à l'autre. Moi, je suis quelqu'un qui vote sur ces trophées-là. Et le Selke, c'en est un autre. C'en est un autre où t'as beaucoup de candidats. Puis à la fin du processus, je pense que moi, je pense que tous les voteurs le font. Tu sais, tu vois, c'est qui a reçu des votes? Est-ce qu'il y a des gars que moi, j'ai ignoré, que j'aurais dû regarder? Et c'est comme ça que la candidature de certains joueurs ramasse un peu de momentum. C'est un peu comme le temple de la renommée au baseball. Tu sais, les votes sont publics au baseball, ça ne l'est pas au hockey. Et je pense que s'il y a le même phénomène qui arrive au temple de la renommée du baseball, qu'il y a des joueurs que, au fur et à mesure, le plus que les années avancent, ils commencent à prendre du momentum, puis finalement, ils se rendent au seuil nécessaire pour rentrer. Le Selke, ça fonctionne un peu de la même façon. Alors, je pense que Nick, s'il continue de jouer comme ça, c'est sûr qu'il va avoir du momentum. Je pense pas qu'il va le gagner cette année, mais je pense qu'il peut faire un saut où il va se rendre dans une position top 5, top 6, puis l'année prochaine, il pourrait faire ce prochain saut-là puis devenir finaliste pour finalement gagner un jour. Mais s'il joue comme il joue en ce moment, écoute, je regardais hier, depuis la fin du 4 Nations, il est deuxième de la Ligue pour les points après Pastrnak.
Ouais, c'est quoi? C'est un point. Là. C'est année à année avant le match d'hier.
Oui, mais c'est un point. Il est plus 29 en 36 matchs depuis la fin du 4 Nations. C'est le meilleur de la Ligue. Plus 29 en 36 matchs, c'est un taux. Écoute, moi, j'aime pas les plus et les moins comme statistique, mais plus 29 en 36 matchs, c'est ridicule. C'est vraiment, vraiment quelque chose de ridicule. Alors, les voteurs vont pas être capables d'ignorer ça. Puis si le Canadien continue à gagner, grandement à cause du jeu de Nick Suzuki, c'est un autre facteur qui va l'aider à avoir des votes pour le Selke.
T'en as glissé un mot tantôt, le contrat de Logan Cooley s'est distribué des millions en début de semaine avec des jeunes vedettes de la Ligue. Logan Cooley, les 80 millions. Thomas Harley, au-dessus de 10 millions par année également. Quand tu vois maintenant ce qu'on sait, oui, sur le plafond salarial et les contrats qui ont été donnés chez le Canadien de Montréal, entre autres à Slaff et Hutton, qui pourraient être peut-être des comparables, même si Harley n'a pas le même âge que Hutton, est-ce que tu vois Slaff et Hutton comme des aubaines et tu te dis « OK, Kent Hughes a procédé à un superbe travail? »
Ben écoute, Cooley, c'est le même repêchage.
Oui.
Alors, c'est des pommes et des pommes. C'est plus ou moins. C'est pas la même position, c'est pas le même profil de joueur, c'est certain. Mais en termes d'âge, c'est des pommes contre des pommes. Puis, c'est difficile de dire que Logan Cooley, c'est un excellent joueur de hockey, qu'il a aussi un plus gros impact sur le succès de son équipe que Lane Hudson l'a. Slafkovski, ça reste à voir. Je suis super encouragé avec son début de saison. Je sais que les points sont pas tout à fait là, mais il marque des buts. Il encourage la position de rondelle de son trio. Tu sais, c'est un élément important d'un des meilleurs trios d'attaquants de la Ligue. Objectivement, c'est en fin de saison l'année passée, au début de saison cette année. Ce trio-là est parmi les meilleurs trios de la Ligue nationale. C'est aucun doute là-dessus. Puis Slafkovski joue un très important rôle sur ce trio-là. Alors, oui, je trouve que ces deux contrats-là, comparé à Cooley, on verra ce que les autres joueurs de cet âge-là vont faire. Mais comparé à Cooley, c'est sûr que c'est une aubaine parce que les deux joueurs, T'sais, peut-être que Slavkovski n'a pas un impact direct la façon que Cooley a, parce que Cooley aussi, il fait partie un des meilleurs trios de la Ligue en ce moment. Je pense qu'il est avec Petrka, puis...
Dylan Gunter.
Dylan Gunter, c'est ça, ça représente un des meilleurs trios aussi. Puis lui, c'est un driver, c'est un joueur de centre, il est très habile, il est compétitif, c'est tout un joueur, honnêtement. Son année de repêchage... Le plus que j'ai regardé Cooley, le plus que je pensais que peut-être ça pourrait être une option pour le Canadien qui a quand même l'allure. Je pense pas qu'ils ont un regret d'avoir pris Slavkovski, puis Slavkovski est en train de comprendre comment il faut qu'il joue dans la Ligue nationale. Alors, si tu me demandes en comparaison à Cooley, est-ce que le Canadien a eu une aubaine avec Slavkovski et avec Hudson? C'est sûr que oui. C'est certain. C'est évident à mes yeux parce que Cooley, je peux faire l'argument qu'il est mieux qui est meilleur que les deux, puis avec Hudson, je trouve que c'est un argument qui est difficile à faire. Mais même si tu acceptes ça, est-ce qu'il est tellement meilleur que ces joueurs-là pour compenser la différence dans leur salaire? Je pense pas.
Harpin, bon week-end. Merci beaucoup. On te souhaite un bon match Canadien-Sens et on se reparle la semaine prochaine.
Merci, Harpin.
OK, bonne fin de semaine, les gars.
Salut Harpin.